France Culture, l'esprit d'ouverture.
Au 57 rue de Varennes à Paris, les premiers ministres se suivent et ne se ressemblent pas. On n'y est jamais que locataire. À l'heure où l'actualité politique dépasse parfois la fiction, pénétrez avec France Culture dans l'enfer de l'hôtel de Matignon.
Notre premier ministre, il fonctionne. Et il est entouré de gens brillants qui fonctionnent.
Un lieu de pouvoir où jeunes loups aux dents longues fraient avec grands serviteurs de l'État. 57 rue de Varennes, un feuilleton de François Perrache et Cédric Ossir, du lundi au vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro, découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous, et je tiens d'abord à vous souhaiter de la part de toutes les équipes de France Culture une belle et heureuse année 2020, placée sous le signe des idées et du savoir encore une fois. Et nous commençons cette année avec un point d'actualité et avec ces mots du président de la République. La réforme des retraites sera menée à son terme. Déclaration d'Emmanuel Macron pendant ses vœux de passage à la nouvelle année hier soir. Dans ce contexte de grève et de manifestation, il s'est voulu ferme, déterminé, appelant au dialogue, mais refusant les concessions. En difficulté sur le front social, Emmanuel Macron a par ailleurs vanté son bilan économique en matière de création d'emplois, d'entreprises, d'investissements. Il y voit un encouragement à poursuivre ses réformes, en particulier dans l'éducation, la santé et l'environnement. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Comme chaque nouvelle année, il y a son lot de changements. Aujourd'hui, le SMIC est revalorisé en fonction de l'inflation à 1,2%. Cela représente 15 euros de plus par mois. Côté santé, le remboursement intégral de certaines lunettes et prothèses dentaires se met en place, alors que l'homéopathie sera, elle, progressivement déremboursée. Et puis au chapitre écologie, notons que les cotons-tiges avec une tige en plastique seront interdits à la vente à partir d'aujourd'hui en France. 1er janvier 2020, pour une grande partie de la planète, donc à 7h, les 12 coups de minuit ont été salués hier soir sur les Champs-Élysées à Paris par une foule nombreuse et festive. C'était après Sydney, Tokyo et Hong Kong. Hong Kong où la police a tiré ses premiers gaz lacrymogènes sur des manifestants pro-démocratie qui avaient formé de longues chaînes humaines. Le Pentagone va envoyer très rapidement 750 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Le président américain l'annonçait hier après que des manifestations pro-Iran ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Bagdad, des manifestants pro-Iran. Ils paieront le prix fort, ceci n'est pas une mise en garde mais une menace, répond donc Donald Trump. Donald Trump encore, qui minimise les propos de son homologue nord-coréen hier soir. Kim Jong-un avait déclaré qu'il souhaitait reprendre les essais nucléaires et lancer prochainement une nouvelle arme stratégique, ce sont ses mots. Les négociations entre Pyongyang et Washington sont au point mort.
Chaque jour sur France Culture à 10h, les chemins de la philosophie par Adèle Vanrett.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ? Chaque jour, je vous emmène à la découverte d'un philosophe à partir d'un poème, d'un roman ou d'un film, en musique et en chanson, pour voguer en sécurité sur la mer parfois houleuse des discussions philosophiques.
Les chemins de la philosophie, toute cette semaine à 10h et sur franceculture.fr.
La police est-elle plus violente sous la présidence Macron ? Les ondes de téléphone portable donnent-elles le cancer ? L'allaitement est-il indispensable pour le nourrisson ? L'homosexualité est-elle un choix ? Mais surtout, est-ce que le Père Noël, Rubicon et Barbu est une invention de Coca-Cola ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses, les idées claires. C'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Les habitudes étaient bonnes en 2019, on les reprend en 2020 avec Toufik Hakem à 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Allez, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Réveil culturel. On commence l'année avec une belle promesse, une belle voix. Pomme. Pomme, c'est mon invitée. Elle n'a que 23 ans et elle confirme avec son deuxième album, Les Failles, tout le bien qui a été dit et écrit sur elle depuis ses débuts pop et folk. Ses chansons, fausses berceuses, vraies ballades sombres et lumineuses où elle étale ses états d'âme, sont très contagieuses. Pomme est en tournée en ce moment. Pour son concert le 27 janvier à la Cigale de Paris, c'est trop tard, c'est déjà complet, mais il y aura d'autres dates. Bonjour Pomme, bonne année.
Bonjour, merci beaucoup.
Le réveil culturel. Musique.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons, une rivière. Château des secrets, tu es le moins âgé, tu en connais des secrets, tu les dis pour pas les oublier. Ah, ah, oublier tes enfants et les enfants.
Chanson d'espoir en temps de désespoir. Rebonjour Pomme.
Rebonjour.
La lumière, c'est le titre de cette chanson, extraite de votre second album, Les Failles. Ça parle de quoi ?
Cette chanson, elle parle de mon grand-père, Auguste, qui avait la maladie d'Alzheimer. Et du coup, je voulais parler de ça parce que je pense que je me rendais pas trop compte de ce que ça représentait quand j'étais enfant et que c'est tellement étrange comme truc que... J'en avais jamais trop parlé et j'y avais jamais trop réfléchi. Et c'est la première fois que j'écris une chanson là-dessus et c'est les premiers mots qui me sont venus quand j'ai pensé à ça, quoi.
Auteur, compositrice, interprète.
Je crois que maintenant on peut même dire autrice. Il y a des gens qui aiment pas, mais...
Et vous aimez ?
Autrice, oui. Bah oui, je trouve que si on dit compositrice, pourquoi pas dire autrice, du coup.
Quelles sont les bonnes résolutions ? Parce que je suppose que, comme tout le monde, Pomme... Comme chaque nouvelle année, vous avez sans doute réfléchi à quelle bonne résolution prendre. Et puis surtout cette année, 2020, quand les compteurs reviennent à zéro pour annoncer une nouvelle décennie.
C'est vrai, 2020, je n'avais pas pensé à ça. Mais bah, souvent, je me dis à moi-même qu'il serait bien que j'aille voir plus d'expositions parce que j'en vois pas assez. Et donc chaque année, j'ai cette résolution-là. Peut-être prendre plus de temps pour moi parce que c'est pas très évident quand on fait ce métier-là de se reposer.
Qu'est-ce donc, qu'on fait quand on prend du temps pour soi ?
J'adore aller au cinéma, lire et dormir aussi, c'est pas mal comme concept.
Vous avez 23 ans, vous êtes jeune, c'est votre premier passage sur France Culture,
Pomme. Oui, complètement.
Plus que jamais, je vais vous demander, parce que vous êtes jeune aussi, de nous résumer un peu votre parcours.
Eh bien, mon jeune parcours est le suivant. J'ai commencé à faire du solfège et du violoncelle quand j'avais entre 6 et 8 ans à Lyon. J'habitais à Lyon. Et j'ai fait beaucoup de chorale aussi pendant 10 ans dans une chorale qui s'appelle La Cigale de Lyon. Et j'ai déménagé à Paris pour faire de la musique après mon bac vers 18 ans.
C'est-à-dire qu'à 18 ans, vous saviez que c'était ça votre vie, la musique?
Oui. Ouais, en fait, je faisais déjà des concerts dans des bars depuis que j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc c'était déjà quelque chose d'assez central dans ma vie.
En chantant, en reprenant des chansons
reprises connues. Reprises et compositions.
Et compositions déjà?
Ouais, mais plutôt en anglais. Plutôt de l'imitation de chanteuses de folk que j'écoutais à l'époque. Et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré plein de gens et j'ai signé avec un label et un tourneur qui sont les mêmes depuis 5 ans.
Avec cette envie de quoi? De faire de la scène ou de multiplier les expériences en studio?
Plutôt la scène, je préfère la scène, c'est moins figé, c'est plus imparfait et j'aime bien cette liberté-là de pouvoir faire des choses différentes tous les soirs, alors qu'en studio, c'est stressant parce que c'est figé et qu'une fois que c'est enregistré, c'est enregistré tel quel à vie. Et ça m'angoisse plus qu'autre chose. Je préfère être sur scène et pouvoir livrer quelque chose qui est mouvant et qui est tout le temps différent, quoi. Je trouve ça plus chouette.
Il y a des gens, des artistes qui vous ont donné envie de devenir à votre tour chanteuse, Pomme, quand vous parlez de folk. Vous avez des références?
J'écoutais beaucoup John Baez et Dolly Parton quand j'étais ado.
Oula, ça c'est les disques de votre mère, voire de votre grand-mère?
Non, ni mes parents, ni mes grands-parents. C'était moi qui allais chiner des trucs sur Internet, sur YouTube et tout. Mais j'écoutais aussi beaucoup de pop stars de mon époque. J'étais très fan de Lady Gaga, de Miley Cyrus. Et de chanteuses françaises aussi, comme Camélia Jordana ou Luce, que j'écoutais beaucoup aussi. Et c'était que des femmes qui m'inspiraient beaucoup et qui me donnaient envie de faire la même chose, quoi.
Et vous savez aujourd'hui pourquoi vous avez décidé de devenir chanteuse?
Non. Non, j'en ai aucune idée, je sais pas, je l'ai pas vraiment. Oui, je l'ai décidé, mais j'ai surtout travaillé et organisé toute ma vie en fonction de ça pour que ça devienne mon métier. Et non, je sais pas te dire pourquoi j'ai eu envie de faire ça et pourquoi c'est quelque chose qui me plaît et j'ai l'impression que c'est le seul truc que je fais plus ou moins bien, surtout. J'ai pas vraiment d'études académiques.
Deuxième album, donc, Les Failles, plus acoustique que le premier, avec Albin de la Simone aux arrangements et à la réalisation, enfin co-arrangements, je suppose que vous avez travaillé ensemble.
Exactement.
Des propos plutôt mélancoliques, poétiques mais mélancoliques, où il est question d'anxiété, de failles, comme l'indique d'ailleurs le titre de ce deuxième album. On a souvent salué la pureté de votre voix, Pomme, la finesse des arrangements, mais on a rarement mis l'accent sur le fait que vos propos sont graves. Vous dites « Je suis celle qu'on ne voit pas, je suis celle qu'on n'entend pas, je suis cachée au bord des larmes, je suis la reine des drames ».
Ouais.
Dans une autre chanson, vous dites « Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée entendre les séquoias pleurer ».
Les gens parlent quand même de cet album comme un album assez sombre quand même. Les gens, ils me disent que c'est sombre, mais pas noir, quoi. C'est pas déprimant, c'est pas. Enfin, il y a de la lumière quand même dans l'album. Et le but, c'était de parler de choses que j'arrive pas forcément à aborder en conversation avec des amis ou en société. Et du coup, moi, j'ai pas trop réfléchi à la couleur de l'album. J'ai plutôt réfléchi. J'ai pas du tout réfléchi. J'ai livré quelque chose d'assez brut, sans me soucier de ce que ça allait devenir, et sans même. Au début, je m'étais même mis dans une atmosphère où j'imaginais que ce serait pas commercialisé pour pouvoir écrire sans me poser de questions, quoi. Et du coup, c'est ça qui en est ressorti. Mais c'est marrant parce que souvent les gens qui m'en parlent, il y a des gens qui trouvent ça sombre et d'autres gens qui trouvent ça assez lumineux.
C'est les deux en même temps?
Ouais, peut-être.
Ah, vous avez une certaine énergie. Ouais, mais pour affronter les choses les plus sombres des temps présents.
Peut-être.
Mais c'est important pour vous, Pomme, que tout ce qui nous entoure, que les angoisses qui nous habitent actuellement soient représentées dans votre travail artistique?
Je crois que. Enfin, moi, je crois en la représentation et au fait que ouais, c'est important d'avoir des exemples et de parler des choses dont personne ne parle. Enfin. Des choses plus taboues et plus complexes et moins roses. Et moi, je crois pas du tout à l'idée que les artistes sont là pour faire rêver le public. Moi, je n'ai pas envie de faire rêver personne et j'ai pas envie de vendre quelque chose qui n'existe pas aux gens, en fait. Et du coup, peut-être c'était comme ça dans les années 80, mais aujourd'hui, moi, je me sens pas du tout appartenir à cette catégorie-là. Et du coup, j'essaie juste de, moi, me faire du bien d'abord et écrire sur des choses qui sont vraies et dire la vérité et parler de la vérité parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de faire rêver. Il faut dire la vérité aux gens parce qu'il y a plein de choses qui sont imminentes, il y a plein de choses qui sont belles aussi, mais on peut dire la vérité sur les choses belles et les choses moins belles, quoi.
Vous commencez par les paroles, donc quand...
Je fais les deux en même temps.
Les paroles et la musique en même temps.
Ouais, ça va ensemble, c'est indissociable pour moi, parce que les tournures de phrases et que les mélodies sont indissociables du texte, parce que c'est rare que je fasse les deux séparément.
Sur quel instrument de musique vous composez généralement, Pum?
Beaucoup à la guitare, un peu au piano, et encore moins à l'auto-harpe, mais parce que l'auto-harpe c'est beaucoup plus limité. Mais en fait, à la guitare, quand je compose, j'ai des mécanismes et des automatismes qui font que je tourne vite en rond, et au piano, qui n'est pas du tout mon instrument, je compose n'importe comment, et donc j'arrive parfois à des accidents. Anxiété, c'est une chanson que j'ai écrite au piano, et je suis vachement plus libre en fait au piano, parce que comme je ne connais pas l'instrument, je fais n'importe quoi, et ça donne des choses, quoi. Mais à la guitare, je sais à peu près ce que je joue, et donc j'intellectualise plus.
Et vous ne triturez pas vos premières compositions à l'ordinateur? Vous passez pas par des logiciels?
Pas encore, mais c'est en projet. J'ai fait une petite formation. Moi, je suis hyper nulle en technologie, mais j'aimerais bien, notamment parce que je trouve qu'il y a des choses à faire avec les effets et avec plein d'effets de voix ou des effets même sur les instruments et tout qui sont hyper intéressants à exploiter. Mais quand je compose, j'écris guitare voix, piano voix à l'ancienne, quoi.
Je suis celle qu'on n'entend pas, je suis...
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Celle qu'on ne voit pas, celle qu'on n'entend pas, celle qui est cachée au bord des larmes, la reine des drames, c'est Pomme, mon invité aujourd'hui. Anxiété, un extrait de votre deuxième album, Les Failles. Alors, vous nous disiez, Pomme, que ce qui vous intéressait, c'était de chanter des choses vécues, que la vérité des choses l'emportait sur le rêve, par exemple, pour cette chanson d'amour qu'on vient d'entendre, parce que c'est une chanson d'amour.
Anxiété ?
Mmh.
Ah ouais, vous trouvez que c'est une chanson d'amour ?
Bah oui.
C'est la première fois qu'on me dit ça.
Alors si c'est pas une chanson de rupture amoureuse, de quoi ça parle ?
Ah, c'est pas du tout, c'est drôle, mais j'adore les interprétations des gens. Mais en fait, dans cette chanson-là, je dis « je », mais le « je », c'est l'anxiété. Donc quand je dis « je suis celle qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, je suis cachée et tout », je parle du sentiment, de l'émotion, de l'anxiété en fait. Et je parle pas du tout de moi, je parle de cette anxiété qui habite plein de gens et que plein de gens vivent au quotidien et de ce que ça provoque. Et voilà, quand je dis quand tu veux dormir, je viens pour t'embrasser et tout, à chaque fois, le jeu, c'est vraiment cette émotion d'anxiété qui parfois s'en va jamais, quoi, que moi je connais parfois, mais qu'il y a des gens qui connaissent au quotidien. Donc ça parle de ça. Mais c'est drôle que ce soit interprété différemment. Moi, je trouve ça chouette que les gens aient chacun un peu leur propre interprétation des chansons. C'est pour ça que c'est cool.
Si c'était une chanson d'amour, elle serait triste, mélancolique ?
Bah, c'est tellement loin de ce que j'avais imaginé que je sais pas trop. Mais ce serait probablement une chanson affreuse parce que ce serait un amour anxieux, du coup. Bah ouais.
Cet album, comment vous l'avez conçu ? Vous commencez par une chanson et puis après il y a une seconde chanson ? Ou bien il y a un sentiment d'abord général, qui vous emporte dans un univers bien précis et vous essayez de composer autour d'un thème comme autant de variations.
J'ai essayé de le composer et de l'écrire sans me mettre des barrières à moi-même. Donc j'ai écouté très peu de musique à ce moment-là. Je me suis isolée, je suis partie en Bourgogne 2 semaines en janvier 2018, toute seule et surtout voilà, j'avais pas vraiment internet, j'écoutais pas de musique, je à part lire des livres et marcher, j'avais vraiment rien à faire et écrire des chansons du coup.
Et vous pensez que les marches, les arbres, les livres qui vous ont accompagné vous ont aussi aidé à écrire cet album ?
Bah, disons que le silence et l'espace et le fait d'avoir du temps m'a aidé à écrire l'album surtout parce que j'écris très peu en ville, à Paris je me libère très, enfin j'ai pas de temps pour écrire à Paris et j'ai du mal à m'en libérer. Et du coup, je l'ai écrit en essayant de m'émanciper et de pas d'être influencée par rien à part vraiment les envies profondes et ce truc de vérité, c'était important pour moi, même si la vérité, c'est un concept finalement discutable, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était que la vérité parce que ça ressemblait à rien parce que j'écoutais rien et que j'étais pas influencée par rien et que personne m'a guidée dans l'écriture et que j'ai livré mon album à mon label mixé en fait. Enfin, je l'ai fait et après j'ai dit voilà.
Ça a pris 2 ans donc, si vous avez commencé à écrire.
J'ai commencé à écrire en janvier 2018, j'ai enregistré en mars 2019 et je l'ai sorti pas tout à fait 2 ans, un an et demi, une grosse année et demie, sachant que j'étais en tournée en fait toute l'année 2018. Et le début de l'année 2019 jusqu'à avril, donc je pouvais pas l'enregistrer avant. Et puis il y a des chansons que j'ai écrites au dernier moment aussi, après la résidence en Bourgogne. Anxiété, par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite à Paris 2 semaines avant le studio.
Une de vos chansons parle d'un désir d'enfant, quand on aime les femmes comme vous. C'est un sujet influencé par l'actualité, par tous les débats qu'il y a eu autour de la PMA.
Pas du tout, parce que moi j'ai écrit cette chanson il y a 2 ans, donc c'était pas encore... C'était pas encore trop d'actualité et non, c'est une chanson que j'ai écrite qui parle de ma propre expérience et du manque, justement, encore une fois, du manque d'exemples et de représentations que j'ai eu en grandissant et les seuls exemples que j'avais, c'était des exemples dans lesquels je me retrouvais pas et du coup, c'est une chanson, voilà.
Quand vous parlez d'exemples?
D'exemples de familles monoparentales ou de familles... ou même de mères célibataires ou de pères célibataires ou de... D'autres exemples que celui de la famille hétérosexuelle de base qu'on voit partout en fait et parfois juste on se retrouve pas là-dedans et du coup on manque d'exemples et on manque on a l'impression d'avoir un problème et d'être un peu à côté de la plaque et cette chanson elle parle de ça et en fait c'est marrant parce que les gens qui m'en parlent c'est pas forcément c'est pas forcément des personnes homosexuelles, ça peut être des femmes qui étaient en couple et qui maintenant sont célibataires, ça peut être des hommes aussi, il y a des hommes qui me parlent de cette chanson, qui me disent qu'elle fait écho et tout, à des choses, et je pense que plus globalement, ça parle d'avoir de ce désir d'enfant qui est assez complexe en fait, et qui pose beaucoup de questions à plein de gens, parce que je crois que c'est la première fois dans la société que moi j'entends autour de moi beaucoup de gens remettre ça en question et remettre plein de choses en question autour de la maternité et d'avoir des enfants, ne serait-ce que parce que la planète est en train de mourir, ne serait-ce que parce que il y a plein d'enfants à adopter, ne serait-ce que parce que il y a des gens qui sont seuls, ou il y a des gens qui sont en couple, qui sont deux hommes ou qui sont deux femmes, et en fait il y a plein de gens qui se retrouvent plus du tout dans ce truc de maternité qui est aussi vachement imposé aux femmes, qui est une pression aussi que beaucoup de femmes ont. Et
vous la ressentez, vous, Pomme?
Bah oui, j'ai l'impression d'avoir grandi En fait, c'est étrange parce que je me suis toujours dit que j'allais avoir des enfants et que c'était la quête de ma vie. Et puis à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, est-ce que t'as pas d'autres trucs à vivre que de faire des enfants? Parce que c'est à l'air incroyable. Et en même temps, j'avais l'impression, parce que j'étais une femme, que j'étais programmée pour avoir des enfants. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui, du coup, sont parfois un peu mal vues. Et c'est toute cette... C'est tout ce qui tourne aussi autour de la figure de la sorcière et des femmes qui ont envie de rester seules et qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants.
Et du coup, vous êtes impliquée aussi avec tous les combats LGBT?
Impliquée, oui et non.
Participer du moins, quoi.
Ou bah, en tout cas, disons que ça me touche parce que ça me concerne, mais c'est surtout que je me dis que si j'ai un impact médiatique et que j'ai de l'attention, autant dire des choses intelligentes et qui vont faire avancer les choses, parce que je suis contente de parler de mon album, mais j'en profite pour parler d'autres trucs qui sont importants aussi à mes yeux, quoi.
Et on écoute la chanson.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Je veux un enfant avant de connaître l'amour. L'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi. Bats-toi, t'auras une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée.
Grandiose, c'est le titre de la chanson, Pomme.
Oui. J'invente pas des histoires, je raconte juste ma vie. Et...
Mais se mettre à nu, raconter sa vie, c'est aussi un acte militant, non?
Ne pas vouloir ressembler à tout le monde, ça devient du militantisme, alors que c'est complètement...
Voilà qui complique ma tâche, Pomme.
Pourquoi?
Alors, je résume. Vous ne chantez pas pour faire rêver les gens. Vous ne chantez pas pour les faire danser.
Non.
Vous ne chantez pas non plus pour une cause. Pourquoi vous chantez, Pomme?
Ben, je pense que je chante parce que ça me fait du bien, en fait, tout simplement, égoïstement. Ça me fait du bien, à la base, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 2-3 ans, parce que j'adore ça, en fait. Et du coup, c'est devenu mon métier. Mais à la base, c'est juste parce que j'aime ça.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Vous venez d'entendre, elle enregistre ses disques pour son propre plaisir, mais heureusement que ce plaisir est contagieux. Les failles, c'est le titre de votre second album qui vient de sortir. Vous êtes en tournée Pomme. Toutes les dates de votre tournée sont à retrouver à la page du Réveil Culturel. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Et bonne année, je vous souhaite le meilleur pour 2020.
Merci.
Bernard Lagnel à la technique ce matin, Corinne Amar à la coordination et Vincent Bouchard à la réalisation du Réveil Culturel vous souhaite à leur tour une excellente année 2020. Passez une bonne journée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump menace l'Iran après la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad hier. Des milliers de manifestants s'y étaient rassemblés. Nous irons à Washington dans un instant. Et direction ensuite le Liban, où, vous l'entendrez, les habitants sont nombreux à soutenir Carlos Ghosn. L'ancien magnat de l'automobile a fui le Japon pour Beyrouth pour échapper à des accusations de malversation financière. Et puis dans ce journal, nous reviendrons évidemment sur les vœux d'Emmanuel Macron, qui a été peu loquace hier soir sur la réforme des retraites. Seule certitude, elle se fera, dit-il. Donald Trump accuse donc l'Iran. Téhéran aurait orchestré, selon lui, l'attaque de l'ambassade américaine en Irak hier. Des milliers de manifestants l'ont prise d'assaut, criant des slogans comme « À mort l'Amérique ». Il s'agissait de manifestants pro-Iran, mais Téhéran assure n'y être pour rien. Qu'importe pour la Maison-Blanche, qui renforce dans le même temps la sécurité autour de l'ambassade à Bagdad. Il s'agit d'envoyer des troupes supplémentaires sur place, Grégory Phillips.
Il n'est, pour l'instant en tout cas, pas question d'évacuer le personnel diplomatique de cette ambassade américaine, située au cœur de la zone verte à Bagdad. Le département d'État confirme que les diplomates restent en poste, mais dans le même temps, le Pentagone annonce l'envoi sur place d'une centaine de Marines supplémentaires qui vont sécuriser les lieux. D'autres troupes, plusieurs centaines de soldats, affirme un responsable américain, sont déjà en route pour le Koweït, voisin de l'Irak, et seront appelés en renfort si la situation se détériore. Hier à Bagdad, on a vu aussi des hélicoptère Apache américain survolait l'ambassade et les manifestants pour les impressionner. Pour la Maison-Blanche, il ne fait aucun doute que c'est l'Iran et les brigades du Hezbollah qui se trouvent derrière ces manifestations anti-américaines violentes. Hier soir sur Twitter, le président Trump écrivait ceci « Les Iraniens paieront le prix fort, ce n'est pas une mise en garde, c'est une menace et bonne année ».
Une nouvelle année qui débute dans la violence encore à Hong Kong. Les forces de l'ordre ont fait usage lors de la nuit du réveillon de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser la foule et pour débloquer des artères. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans la ville pour un nouveau rassemblement anti-gouvernemental. En ce 1er janvier encore, le dirigeant nord-coréen a décidé de hausser le ton. Et Kim Jong-un menace encore, promettant une action sidérante contre les États-Unis. Il annonce surtout la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires. Le président américain Donald Trump dit pourtant maintenir sa confiance. Lui continue à croire en la volonté de Kim Jong-un de dénucléariser son pays. Au Liban maintenant, l'ancien PDG de Renault-Nissan a passé le réveillon en famille. Lui qui a fui le Japon en début de semaine. Il y est accusé, je vous le rappelle, de malversation financière. C'est donc à Beyrouth qu'il est allé trouver des soutiens. Carlos Ghosn a la nationalité libanaise et il est aux yeux de nombreux Libanais le symbole du succès de la diaspora, adoubé donc aussi bien dans les sphères économiques et politiques que dans la rue. Aurélien Colli.
C'était un homme bien qui donnait une bonne image du pays. Confidence d'un homme d'affaires croisé dans le quartier huppé où Carlos Ghosn a l'habitude de résider. Un Libanais qui regrette la chute d'un modèle, mais qui soutient sa fuite du Japon, comme Georges croisé un peu plus loin.
Nulle personne n'a le droit d'être traité comme Carlos Ghosn a été traité. Même si un jour on prouvait qu'il était malhonnête, ce qui s'est passé n'est pas humain.
Carlos Ghosn victime, le sentiment de nombreux Libanais aveuglés par la réussite de cet enfant du pays, qui a promis de prouver son innocence maintenant qu'il est au Liban. Libéré, comme il l'a dit, de l'injustice du système judiciaire japonais. Au centre-ville de Beyrouth, cœur de la contestation qui secoue le pays depuis mi-octobre, on est plus sceptique en revanche sur le cas Carlos Ghosn. En route pour son réveillon, Faïd ironise sur le flou qui entoure son arrivée au Liban.
Il y a un grand mystère, je pense, qui entoure cette fuite. Beaucoup de rumeurs, qu'est-ce que j'ai lu récemment, comme quoi il était parti dans une grosse caisse de musique avec un orchestre. Je pense pas que ce soit nécessairement une bonne image pour le Liban de l'accueillir à bras ouverts.
Mobilisée depuis le début de la contestation sociale, il y a 2 mois et demi, Anna, la vingtaine, est-elle encore plus radicale avec l'ancien PDG?
S'il est fautif, il doit être en prison, même s'il est au Liban. C'est pour cela qu'il est venu au Liban, parce qu'il sait qu'il ne va pas être poursuivi en justice.
C'était un reportage d'Aurélien Colli pour France Culture. Emmanuel Macron a présenté les traditionnels vœux du 31 décembre hier soir. Quasiment muet sur la réforme des retraites depuis plusieurs semaines, le président de la République n'a pas pu éluder la question hier. Mais là où l'Élysée promettait un message d'apaisement, le mot a d'ailleurs été prononcé par le chef de l'État, on a tout de même l'impression que son discours n'a pas apaisé grand-chose, Rosalie Lafarge.
C'est-à-dire qu'il y a vouloir l'apaisement et provoquer l'apaisement, créer les conditions de l'apaisement. Emmanuel Macron ne lâche rien sur la réforme des retraites. C'est là-dessus qu'il était attendu et qu'il avait peut-être des cartes en main pour amener vers une sortie de crise. Mais le président reste ferme. Il ne parle pas de l'âge pivot. Il dénonce beaucoup de mensonges et de manipulations autour de ce dossier des retraites. Lui remet les choses à plat. Cette réforme, c'est une de ses promesses de campagne. Il n'est pas question de ne pas aller au bout. Il se redit déterminé à la mener à son terme. Et il demande au gouvernement de trouver la voie d'un compromis rapide, mais là non plus, sans donner d'outils ou de pistes. Tout juste évoque-t-il la possibilité de prendre en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt, mais pas dans des régimes spéciaux. Globalement, le président se pose encore et toujours en réformateur, en homme qui agit et avance. Il reformule son engagement à transformer le pays et il promet surtout de ne rien céder ni au pessimisme ni à l'immobilisme.
Pas de concession donc, pas un mot ou presque non plus aux grévistes. C'était pour le délégué Sudrail et conducteur de RER Fabien Villedieu un moment pénible. Il le dit au téléphone d'Annabelle Grelier.
Comment parler d'apaisement si on n'est même pas capable d'écouter les Français et même pas capable d'intégrer le fait qu'il y a un rejet massif de sa réforme des retraites. Donc moi ce qui me dérange là-dedans c'est que finalement la seule chose concrète sur laquelle il était attendu c'était les retraites et sur ce sujet-là il n'écoute pas les Français. Même pas un mot pour les voyageurs qui galèrent depuis 3 semaines, voire maintenant 4 semaines. Même pas un mot pour toute la souffrance des grévistes. Même pas un mot pour tous les gens qui ont contribué aux manifestations. Même pas un mot, et on parle d'apaisement, et on parle d'unité nationale, et on parle de rassemblement. Enfin, on n'a pas vécu le même mois de décembre, quoi. Et ben, il nous a pas attendu au mois de décembre, il nous entendra au mois de janvier.
Car effectivement, après la reprise des négociations qui est prévue mardi, une journée de mobilisation interprofessionnelle est annoncée pour le 9 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain. D'ici là, la grève, elle continue dans les transports. À la SNCF, les cheminots, nous venons de l'entendre, se battent en partie pour le retrait total de la réforme. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui aussi qu'entre en vigueur la réforme ferroviaire, en tout cas la fin du statut de cheminot. Cela concerne les nouveaux entrants à partir de ce 1er janvier, Hakim Kasmi.
Avec la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF, l'entreprise espère économiser 100 millions d'euros par an, une somme qui doit lui permettre en partie de réduire sa dette qui est de 46 milliards d'euros, mais aussi d'être plus compétitive avec l'ouverture à la concurrence pour les TGV à partir de 2020. Avec des garanties pour les cheminots embauchés au statut qui passerait à la concurrence si la SNCF devait perdre un appel d'offres face à une entreprise privée. Ils garderont donc le même salaire et la même retraite. Une retraite qui ne sera pas la même par contre pour les roulants, les conducteurs, les aiguilleurs ou les contrôleurs nés à partir de 1985 et pour les sédentaires qui travaillent dans les bureaux et les guichets nés à partir de 1980. Le groupe SNCF qui va aussi changer de statut afin de respecter le droit à la concurrence conformément à la demande de Bruxelles. Il sera donc scindé en 3 sociétés anonymes à capitaux publics, une nouvelle structure que dénoncent les syndicats car elle va créer des tensions sociales. En effet, le nombre de représentants et d'élus syndicaux sera divisé par 7 avec la fusion des comités d'entreprise, des délégués du personnel et les CHSCT qui seront regroupés dans 33 comités sociaux et économiques des CSE comme le prévoient de nouvelles ordonnances. Enfin, pour accroître sa productivité, la SNCF devra supprimer des postes chaque année en échange de la reprise d'une grande partie de la dette par l'État à hauteur de 35 milliards d'euros.
Hakim Kasmi. Nous finissons ce journal par une autre colère, celle des musiciens de l'Opéra de Paris. Ils se joignent aux techniciens, danseurs, cadres de l'entreprise pour refuser que leur régime spécifique de retraite soit remis en cause par la réforme. Hier après-midi, ils étaient donc une 50aine à Paris devant l'Opéra Bastille, instruments en main. Parmi eux, Christophe Grindel, joueur de hautbois.
Ça revient en fait à mettre sous le tapis les problèmes, reporter sur les générations futures les problèmes, c'est-à-dire les gens qui seront à plus de 17 ans de la retraite. Donc ça revient à sacrifier les jeunes générations à notre profit. On voudrait vraiment résoudre de manière pérenne les problèmes soulevés en termes de fatigue, d'excellence, de qualité artistique. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent et en face de ça, aucune solution n'a été même suggérée. Il n'y a pas d'argent pour financer un compte épargne temps, il n'y a pas d'argent pour financer un plan de reconversion pour les danseurs, il n'y a pas d'argent pour mettre en place une mutuelle ou une incapacité de travail qui permettrait de prendre le relais de la caisse de retraite, enfin du régime spécial. Donc notre demande est pour l'instant de reporter cette réforme. Pour l'instant, on est ouvert à toute proposition, mais il n'y a pas de discussion, il y a juste des discussions de salon au ministère qui nous renvoient à la direction de l'Opéra de Paris qui n'a pas les moyens de négocier.
Des propos et du son recueillis par Cécile de Carvaz-Doué hier à Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Seul le sud-est de la France sera ensoleillé ce mercredi. Des nuages bas et des brouillards seront nombreux sur la moitié est. Des pluies tomberont sur l'ouest. Voilà pour la météo du jour. Côté température, comptez moins 2 ce matin à Besançon, 0 à Lille et Lyon, 2 degrés à Paris, 8 à Rennes et Bordeaux, 9 degrés à Nice. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Et pour commencer cette année 2020, petit atlas des territoires qui échappent encore à la loi des hommes. C'est avec Julie Gacon. Bonjour Julie.
Bonjour Clara et très bonne année à vous et à tous nos auditeurs et auditrices. Oui, alors des territoires qui échappent à la loi des hommes, des territoires sauvages, il y en a encore. Il faut pas se méprendre, ça ne veut pas dire que l'homme n'a jamais essayé de les apprivoiser, voire d'y vivre. Au contraire, certains ont même été rendus à leur état sauvage à cause de l'homme, que ce soit la zone d'exclusion autour de Tchernobyl, qui ressemble encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, à un véritable enfer, que ce soit encore ce désert de Tassili-Niger au cœur du Sahara, certes aride et difficile d'accès, mais surtout minée par les guerres. Des terres sauvages, il y en a aussi de sublimes, de magnifiques, d'inviolées. Comme on dit, nous voulions commencer l'année 2020 avec le silence des terres sauvages. C'est quelques blancs sur la carte du monde, comme vous l'écrivez joliment. Haute de Tocqueville, bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour cette première journée de 2020. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne année à vous aussi. Après votre Atlas des cités perdues paru en 2014, vous venez de publier un très bel atlas des terres sauvages, illustré par de non moins belles cartes de Karine Doring-Froger. Vous en avez parcouru certaines de ces terres sauvages. Alors, Haute de Tocqueville, par définition, si vous les avez foulées aux pieds, ces terres-là, est-ce qu'elles peuvent encore être qualifiées de sauvages? Si vous avez pu vous y frayer une route, est-ce qu'on peut les qualifier d'inaccessibles?
Il est certain que pour beaucoup de terres sauvages où je suis allée, non, l'explosion du tourisme, les explorateurs du 19e ont fait qu'elles sont devenues moins sauvages et qu'elles sont menacées de disparition. Mais c'est vrai quand même qu'il y a de moins en moins de terres sauvages vraiment inviolées sur la planète, mais il en reste quelques-unes. Et heureusement qu'on peut les fouler parce qu'on a quand même très envie, non, de retrouver un peu le monde d'avant notre civilisation marchande. On a toujours une soif de curiosité, de découverte. Et c'est vrai que quand je me suis promenée dans certains déserts, dans certaines jungles, il y a toujours ce sentiment d'être hors du monde, hors de notre monde d'aujourd'hui. Et ça fait beaucoup de bien.
Alors, il y a plusieurs catégories de terres sauvages de Tocqueville. Il y a d'abord celles qui restent inasservies. Votre atlas est vraiment fait de telle sorte qu'il y a d'abord ces terres-là inasservies que l'homme n'a pas cherché à aménager. Et puis plus tard, il y a des terres sauvages au sens dur du terme parce que l'homme, la sauvagerie de l'homme les a rendues sauvages. Alors, on va peut-être commencer par ces paysages à couper le souffle et ces terres inasservies. Je voudrais que vous nous en décriviez quelques-unes. Le désert de Roub al-Rali, en Arabie Saoudite, en tout cas déployé sur 4 parties de la péninsule arabique, vous avez pu y aller.
Oui, tout à fait. Mais avant de vous raconter ce désert, je voulais vous dire que c'était assez intéressant quand je me suis mise à faire des recherches pour trouver des lieux sanctuarisés. Je me suis rendu compte que la main de l'homme, maintenant, était un petit peu partout. Donc j'ai commencé par trouver des endroits tout à fait où on sent le souffle du vent, où il y a le silence, comme vous disiez tout à l'heure, donc des terres vraiment sanctuarisées par la nature. Et ensuite, en recherchant ces terres, je me suis rendu compte effectivement que l'homme avait rendu des terres qui n'étaient pas si sauvages, sauvages. Donc ce livre, il est fait à la fois pour rêver et puis aussi un petit peu pour frémir. Mmh. Donc le Roub al-Rali, là, dont vous parlez, qui est un des plus grands déserts du monde, il est totalement fascinant parce qu'il s'étend, vous voyez, du sud, enfin entre le Yémen et l'Arabie Saoudite et au nord-ouest à Oman. Et c'est un désert autrefois qui était tout à côté de la route des caravanes, de la route de la soie. Et au fil du temps, les nomades se sont sédentarisés sur la côte en général. Et maintenant, quasiment plus personne ne le traverse. Et j'y suis allée effectivement avec une jeep et un petit encadrement avec quand même, mon chauffeur avait toujours un pistolet à côté de son frein à main parce que maintenant il y a la guerre au Yémen, il y a des bandes armées qui s'y promènent. Mais ça reste un endroit effectivement totalement fascinant. Vous voyez des dunes de sable de 30 mètres de haut qui aboutissent dans la mer et c'est totalement saisissant avec ces ciels incroyables, ces ciels, ces couleurs très particulier au désert, et c'est resté effectivement, malgré l'instabilité de la région, un endroit magique.
Des dunes infranchissables et qui se déplacent par l'effet du vent, ce qui faisait dire à Laurence d'Arabie qu'il était impossible à franchir, sauf en dirigeable. Et aujourd'hui, en 2020, avec un GPS et un smartphone, on peut le franchir. Votre conducteur, comment est-ce qu'il a fait?
Oui. Non, là, je me suis promenée vraiment sur un bout au sud de ce désert, mais il y a eu en 2015 un Anglais qui a voulu réitérer l'exploit qu'en 1911 avait fait un autre Anglais, mais il avait un GPS et il s'est dit que ça va être très très facile de traverser ce désert du sud au nord. Et il s'est perdu, il a mis un temps fou et il s'est rendu compte que même aujourd'hui, le GPS pouvait ne servir à rien parce que ce sont des dunes qui peuvent se déplacer en quelques heures, des dunes de 30 mètres de haut, vous imaginez. Donc ça change complètement la physionomie du paysage, donc on s'y perd complètement.
Dans la catégorie indomptable, il y a aussi l'archipel de Saint-Brandon, c'est dans l'océan Indien, on est au large de l'île Maurice et là les mouvements de sable font purement et simplement apparaître et disparaître les îles, toujours au gré du vent.
Ah oui, alors là, cet endroit, c'est un peu l'île Maurice d'avant l'explosion du tourisme à l'île Maurice. C'est une succession d'une vingtaine d'îles très très plates qui sont totalement protégées par une barrière de corail assez haute. C'est pour ça qu'il y a une chose assez amusante, quand vous voulez y aller, enfin les rares voyageurs qui y vont, sont obligés de signer un papier aux autorités locales, parce que ces îles appartiennent au gouvernement mauricien, en disant qu'en cas de problème, en cas de cyclone, ils acceptent que personne ne vienne les sauver.
Ce serait trop risqué et trop cher.
Oui, absolument. Et cet endroit, c'est vraiment un mirage d'eau avec une faune et une flore évidemment totalement préservées. Et c'est le côté un peu formidable. Tout à l'heure, je disais que ces terres sauvages, qui sont quand même, il y en a de moins en moins, ça se réduit comme peau de chagrin. Mais il y en a tellement de moins en moins qu'on en parle de plus en plus et que l'on essaye vraiment de les préserver. Et le gouvernement mauricien veut en faire une réserve de nature, bien sûr, et je pense que ça va se faire dans les années qui viennent, et on ne verra pas pousser plein d'hôtels de luxe comme il y a à l'île Maurice, mais je pense que c'est pas possible, ce sera pas possible. La mer aux alentours est trop dangereuse.
Ouais, ça doit faire un drôle d'effet d'ailleurs. Les îlots ne dépassent pas, écrivez-vous, 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc quand on est planté là face à l'océan qui gronde, on doit se sentir minuscule, et pourtant vous écrivez que le recensement de 1911 dit que 110 personnes vivaient dans cet archipel, dans 39 maisons à l'époque, et elles étaient en pierre, en bois ou en chaume.
Oui, parce qu'il y avait quand même une vie sur ces îles au début du XXe siècle, parce qu'il y avait des pêcheurs et puis aussi des ramasseurs de guano, vous savez. Les gens y ont habité, mais c'est toujours pareil, c'est toujours de plus en plus difficile. C'était quand même très difficile d'y aller. Les familles étaient séparées et petit à petit, ces îles ont été complètement abandonnées.
Alors, un autre lieu sauvage et à de très rares exceptions près, vierge de toute présence humaine, mais pour d'autres raisons cette fois, c'est non pas qu'il soit inaccessible, mais il est interdit car sacré, c'est le bois de Cabrousse au Sénégal, en Basse-Casamance.
Ah oui, ça c'est une jolie histoire. En me promenant pour écrire ce livre, je me suis rendu compte que si la religion pouvait sanctuariser un territoire. Et j'étais dans le sud, en Basse-Casamance, et je me promenais sur la plage, et tout d'un coup j'ai vu un écriteau. Ici, vous êtes au bord des bois sacrés, respectez ce lieu et ne jetez aucune ordure ni aucun branchage. Et je vous promets, le contraste était incroyable entre la proximité des hôtels du Cap Skirine, qui sont quand même un lieu assez touristique de Casamance, et cette forêt, mais inextricable. De toute façon, on ne pouvait absolument pas y entrer. Et j'ai posé la question à des gens du coin en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, où ces bois sacrés ?» Et on m'a raconté que c'est en toute Basse-Casamance, où il y a vraiment une tradition animiste encore très forte, c'est l'endroit où les jeunes de tradition animiste, les jeunes Diola, puisque c'est l'ethnie Diola en Basse-Casamance, font des rites pour passer, enfin c'est les rites qu'on leur impose pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Et pendant plusieurs jours, les enfants qui commencent à grandir, les jeunes ados, entrent dans ce bois sacré. Personne n'a voulu me dire, et je suis restée assez longtemps, j'ai vraiment parlé à pas mal de monde, personne n'a voulu me dire ce qui s'y passait dans ces bois sacrés, et ils en ressortent au bout d'un certain temps, devenus adultes. Et ce qui était assez amusant, c'est que c'est un endroit, dans cette Basse-Casamance, où il y a ce qu'on appelle les bolons, sont des langues des fleuves très larges qui vont se jeter dans la mer. Et donc j'ai pris des barques plates pour me promener dans ces bolons, c'est absolument sublime, parce qu'il y a un silence incroyable, des oiseaux magnifiques, et à certains endroits, je voyais c'est même pas des bois, enfin des 3-4 arbres très resserrés, avec des panneaux avec marqué interdit d'entrée, et quand même, j'ai quand même un peu regardé, et à l'intérieur de ces espaces sacrés, j'ai vu des peaux de bêtes, des totems, des objets, des fétiches. Et c'est là où les gens des villages alentours viennent implorer un mariage, ils viennent faire leurs prières. Et c'est très, très émouvant. Évidemment, on n'a pas le droit d'y entrer quand on n'est pas du coin.
Aude de Tocqueville, une dernière de ces terres sauvages, beaucoup plus proche de nous, l'île de Povelia, et on est à Venise, la si touristique Venise.
Oui, j'ai choisi cette île, il y a quand même une centaine d'îles dans le lagon vénitien, parce que j'ai trouvé que son histoire était très, très amusante, et vous partez en fait d'un bateau dans la foule de la place Saint-Marc, enfin un bateau, vous ne partez pas parce que vous n'avez pas le droit d'y aller, cette île de Povelia qui se trouve au large du Lido, et la seule île abandonnée de la lagune vénitienne. Il y a beaucoup d'îles qui sont inhabitées, après des îles qui sont des centres d'art, des hôtels ou des îles habitées, mais elle, en 1968, a été abandonnée et surtout a été l'objet de rumeurs incroyables. On a dit qu'il y avait des fantômes qui étaient sur cette île. Et c'était très amusant. J'ai soudoyé un petit jeune vénitien qui était pas très fier et tout. Je lui ai dit, je voudrais vraiment visiter cette île. Donc, il m'a emmené le soir au coucher du soleil. C'était absolument magnifique. C'est une île qui fait 7 hectares, qui a fait l'objet. En fait, c'était un lazaret au XVIIe siècle. Vous savez, là où on arrêtait les équipages, on mettait les équipages qui étaient soupçonnés d'avoir de la peste. On les mettait en quarantaine avant qu'ils puissent arriver à Venise. Et il y a eu des rumeurs qui ont couru, comme quoi il y a eu beaucoup de morts, ce qui était complètement faux. Et à la fin au 18e, on a construit sur cette île un hôpital. On a vu cet hôpital, on le voit toujours, cet hôpital qui émerge des broussailles. Et dans cet hôpital, on a dit qu'il se passait plein de choses, que c'est un hôpital psychiatrique, ce qui a toujours été faux. Donc cette île a été en permanence l'objet de rumeurs, et notamment les Anglo-Saxons sont très férus de cette île. Ils disent qu'il y a des tas de fantômes qui viennent hanter les lieux. Maintenant, on n'en fait plus rien, sauf que le gouvernement italien, qui en 2014...
veut la vendre.
Veut la vendre. Alors, il y a le Club Med qui s'est mis sur les rangs, mais ça n'a pas marché. Et surtout, les Vénitiens ont créé une association qui s'appelle, je crois, Poveglia per Tutti. Et l'idée, c'est d'en faire un centre d'art, mais... son destin n'est vraiment pas tracé encore. Je crois que ça va rester encore longtemps sauvage et très mystérieux.
De l'eau peut couler sous les ponts justement de Venise avant qu'elle devienne une île comme Murano. Haute de Tocqueville, il y a une autre catégorie de terre sauvage au sens propre, disons, en tout cas sauvage. Ce sont ces terres rendues sauvages par la sauvagerie justement des hommes ou par leur inconséquence. Et dans votre atlas, vous citez donc bien sûr Tchernobyl, sa zone d'exclusion de 30 km avec sa forêt de feuilles mortes qui ne se dégrade pas. Vous décrivez aussi le point Nemo. On est en plein Pacifique Sud, à peu près entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Et c'est un cimetière spatial. C'est là que tombent les débris des engins spatiaux qui rentrent de mission, qui tombent à combien de kilomètres de fond d'ailleurs dans ces eaux-là. C'est 4 kilomètres. La station soviétique Mir s'y est abîmée en 2001. Elle pesait 120 tonnes, donc c'est une mer qui doit être chargée d'aluminium, de titane. Et on est là dans le lieu le plus isolé du globe.
Ah oui, ça c'est une histoire incroyable. Ça c'est fou que les autorités spatiales ont décidé dans les années 70 d'en faire une vraie décharge de débris de satellites. Et il y a à peu près entre 250 et 300 plateformes, anciennes plateformes de satellites eux-mêmes, qui s'abîment en mer à cet endroit-là. Alors cet endroit a été choisi parce que c'est vraiment à 15 jours de bateau de la première terre émergée, qui est d'ailleurs inhabitée. Et on dit même, c'est assez amusant, que les astronautes qui passent dans le ciel à 400 km au-dessus de ce point Nemo sont plus près que le premier habitant de la première terre habitée. Enfin, c'est un truc de fou. Et le point Nemo, enfin, on dit point, mais c'est plutôt une zone, parce c'est plus grand, ça fait 22 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que l'ex-URSS. Donc c'est un endroit énorme et qui a été choisi, parce que donc c'est le coin le plus isolé du globe, mais parce que les fonds sous-marins, paraît-il, sont pas du tout riches. Enfin, donc il n'y a pas grand-chose. Donc ils ont choisi, enfin les autorités spatiales ont choisi cet endroit. Enfin, c'est quand même, au point de vue écologique, c'est pas très réjouissant de se dire qu'on a pu transformer ce cœur du Pacifique Sud en décharge.
Haute de Tocqueville, donc je continue à parcourir votre atlas encore un tout petit peu. Il y a aussi ces terres qui sont redevenues sauvages à cause des guerres et ce désert qui vous tient, je crois, particulièrement à cœur au sud de l'Algérie. On est au cœur du Sahara. Mais tout près de la Libye, à l'est, il y a le Niger au sud. Et là, bon, bah, les guerres ont mis fin au passage de visiteurs dans ce désert.
Le Tassili-Niger, c'est un... On a l'impression que ça pourrait être, vous imaginez la lune avec du relief, un désert hérissé de pitons rocheux, totalement minéral, c'est d'une beauté inouïe d'ailleurs comme toute l'Algérie. Et cet endroit que quand même pas mal d'explorateurs ont fouillé au XXe siècle, qui est rempli de peintures rupestres vieilles de 10 000 ans, cet endroit, mais c'est tellement triste, ne peut plus, on ne peut plus y aller parce qu'il y a ces bandes armées, un peu d'ailleurs comme le Rub El Khali dont on parlait tout à l'heure, qui se baladent entre le Niger effectivement et la Libye. Et c'est vraiment une terre que l'homme a rendue sauvage. Et c'est ça que j'ai découvert dans ce livre, c'est que oui, il y a le réchauffement climatique qui ne vient pas que de nous, mais nous, on est quand même très responsables de ce que nous faisons de notre planète. Et je pense que, depuis la bombe atomique, je pense que c'est la première fois que l'homme découvre que la planète peut vivre sans lui. Et là, l'enjeu est assez planétaire, je trouve. C'est vraiment triste de se dire que nous, ce qu'on peut faire de notre planète.
Le temps nous manque pour décrire un lieu hallucinant que vous décrivez aussi dans votre atlas des terres sauvages, qui sont les souterrains de New York, les entrailles de New York qui abritent près de 30 000 hommes, femmes, enfants dont certains ne voient jamais la lumière du jour. On les appelle les hommes et les femmes taupes et qui ont davantage peur de la méchanceté humaine qu'ils trouveraient sur Terre que de ces souterrains pourtant envahis par les rats, les maladies. Et il faut vraiment se représenter ces souterrains et lire votre atlas des terres sauvages pour en prendre la mesure. Haute de Tocqueville, les premières terres réellement sauvages que vous nous avez décrites, ces sanctuaires, sont là pour nous rappeler le monde d'avant, en quelque sorte, alors que les derniers nous racontent le monde d'après. Et est-ce que c'est pas en cela qu'ils sont tous utiles à nous rappeler ce qu'il en coûte de jouer avec eux ?
Absolument, et il faut vraiment comprendre que nous appartenons tous à ce même espace, nous sommes tous dépendants les uns les autres, et là l'enjeu il est vraiment politique, mais d'une manière globale, et c'est vraiment une leçon à prendre, je pense, de ces terres qu'il faut préserver parce qu'elles sont d'une beauté absolue et qu'elles nous font rêver, et de ces terres qu'il faut nous réapproprier, alors que nous en avons fait, à cause de nos conflits, des catastrophes technologiques, de véritables enfers.
Donc il faut en faire quoi, des réserves ?
Oui, il faut en faire des réserves de nature, on en a besoin.
Des luxes qu'il faut à tout prix préserver, et voilà, c'est toujours le problème. Est-ce qu'on, dans quelle mesure on peut les partager avec tout le monde ? C'est toujours la question qui se pose, la question du tourisme. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager par votre atlas. C'est ça la solution. Votre atlas des terres sauvages est disponible aux éditions Artaud. Merci beaucoup, Aude de Tocqueville, et bonne première journée de l'année. Encore vierge, elle aussi. Merci.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'actualité des idées et de la culture, bienvenue à la Grande Table, tous les jours à midi, Raphaël Bourgois.
Des réfugiés qui vont de Charybde en Scylla, les viols perpétrés par les dieux grecs, dénoncés par le hashtag MeToo, un Uber pour Hector, le dessinateur Jules et le philosophe Charles Pépin signent le second volume de 50 nuances de grec, ou l'actualité passée au tamis des mythologies, Jules est l'invité de la Grande Table ce 1er janvier.
La Grande Table, ce mercredi dès midi et sur franceculture.fr.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Quinvran.
Un micro qui vous prend par la main et vous emmène sur le terrain, un grand thème en 4 épisodes autonomes, complémentaires et addictifs, des sons qui fabriquent des images parce que, comme disait Orson Welles, à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma.
Cette semaine, l'automobile et nous. Conduire ou ne pas conduire ? Carcan ou liberté ? Machine à rêve ou fléau ? Comment agit-elle sur nous ? Comment s'en passer ? L'automobile et nous, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Il est 6h59 sur France Culture. Les matins vous sont présentés ce matin encore par Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît et bonne année.
Et bonne année à vous aussi, Julie Gacon, merci. Très bonne année à toutes et tous, à l'écoute bien sûr, comme l'an dernier, de France Culture. Nous reviendrons tout à l'heure sur les vœux présidentiels d'hier soir. Emmanuel Macron a voulu se montrer clair sur sa volonté de mener à bien la réforme des retraites, tout en appelant au compromis rapide. Nous recevrons à partir de 7h40 pour décrypter cette intervention le sociologue Yvan Saint-Saulieu. Avant cela, nous évoquerons la naissance, ce matin même, du Centre National de la Musique, créé par décret présidentiel. Après une très longue gestation, ce sera dans la question du jour à 7h12. France Culture, 7h.